bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 7 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia. Tout d'abord les titres. Au Tchad, le dialogue de réconciliation nationale censé s'achever le 20 septembre a été prolongé de 10 jours. En RDC, un mort mardi dans la dispersion d'une foule hostile au casque bleu à Bénéville. Le Togo prolonge l'état d'urgence dans le nord du pays en proie à des incursions de groupes djihadistes. En Éthiopie, plus de 60 personnes massacrées dans la région de l'Oromia selon la Commission des droits humains. La nouvelle première ministre britannique Liz Truss nomme un gouvernement marqué par une diversité inédite pour sortir de la tempête. Moscou demande à l'Agence internationale de l'énergie atomique des clarifications sur son rapport sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Tchad, le dialogue national lancé il y a 2 semaines a été prolongé d'au moins 10 jours. Censé s'achever le 20 septembre, ce dialogue a connu de nombreux reports et interruptions, Mohamed Houmfa.
Un nouvel agenda soumis par le Présidium a été adopté par l'Assemblée plénière de quelques 1400 délégués. Son porte-parole, Liman Mahamat, a indiqué que compte tenu du nombre de thématiques et des débats qui peuvent aller au-delà des prévisions, la date du 20 septembre devenait intenable. On a déroulé un agenda avec les différentes étapes en tenant compte des suggestions, ce qui nous donne à titre indicatif une clôture à la date du 30 septembre, a-t-il déclaré. Au terme de cet agenda, les travaux en commission sur les questions sociales, la paix et la réconciliation ou encore les libertés fondamentales devraient commencer d'ici à jeudi. Plusieurs fois reporté, le dialogue national inclusif et souverain s'est ouvert le 20 août à N'Djamena, en dépit du boycott de certains partis de l'opposition et de 2 importants mouvements rebelles. Émaillé de nombreuses interruptions, il n'a toujours pas entamé ses travaux sur le fond.
En République démocratique du Congo, un homme a été tué mardi lors de la dispersion d'une foule hostile à un convoi de casques bleus à Bénéville, dans l'est du pays. Cet incident intervient dans un climat national anti-MONUSCO, la mission onusienne étant accusée d'inefficacité dans la lutte contre la centaine de groupes armés qui sèment la terreur dans la région depuis près de 30 ans, Nanit Talani.
Dans un communiqué, la mission de l'ONU en RDC écrit, je cite, « De retour d'une patrouille, les casques bleus, escortés par les FRDC, forces armées de la RDC, ont été assaillis par des manifestants à coups de pierre. Selon l'ONU, des tirs de sommation ont permis de se frayer un chemin. Une personne a malheureusement perdu la vie. Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ces décès, lit-on dans le même communiqué. Plus tôt dans la journée, un porte-parole de la police à Beni, Nasson Mourara, avait indiqué que des motocyclistes avaient attaqué à coups de pierre et bloqué une colonne de véhicules des casques bleus. Ces derniers avaient alors tiré pour se frayer un chemin. Malheureusement, une balle perdue a atteint un chauffeur qui est décédé, a indiqué M. Mourara, qui a également parlé de l'ouverture d'une enquête par la police judiciaire pour identifier les auteurs de ces tirs.
Au Togo, le Parlement a prolongé mardi pour 6 mois l'état d'urgence dans une région frontalière du Burkina Faso, celle des savanes située dans l'extrême nord du pays, en proie à des incursions de groupes djihadistes. Alors que ces groupes opérant au Sahel semblent se diriger progressivement vers la côte ouest africaine, le nord du Togo a subi au moins 5 attaques depuis novembre 2021. En Éthiopie, plus de 60 personnes ont été tuées et 70 blessées et des domiciles du bétail pillés fin août lors d'un nouveau massacre dans la région de l'Oromia. L'annonce en a été faite par la Commission éthiopienne des droits humains proche du gouvernement fédéral. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après la Commission éthiopienne des droits humains, plus de 20 000 personnes ont été déplacées par ces attaques ayant visé plusieurs localités de Wereda dans le district d'Amourou entre le 29 et le 31 août. Elle dit avoir constaté des tueries après le départ des forces de sécurité déployées dans la zone. La commission indique que les attaques ont été commises par des hommes armés venus de localités du district ou de la région voisine de l'Amara pour se venger après la mort de 3 membres de la communauté Amara tués par l'armée de libération de l'Oromo lors d'une opération de ce groupe rebelle Oromo. Mais des habitants accusent des miliciens Amara d'avoir commis ces tueries. Les autorités régionales ont incriminé l'OLA, organisation classée terroriste par Addis Abeba. Des conflits territoriaux opposent les Oromo et les Amara, les deux plus importants groupes ethnico-linguistiques de l'Éthiopie. Et plus au nord, les rebelles du Tigré sont toujours en guerre contre le pouvoir central. Mike Hammer, l'émissaire américain, est sur place pour tenter d'obtenir une cessation des hostilités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dès son entrée à Downing Street, la nouvelle première ministre britannique Liz Truss a nommé hier un gouvernement de fidèles très à droite, marqué par une diversité inédite et chargé de sortir le Royaume-Uni de la tempête économique et sociale provoquée par la flambée des prix de l'énergie. Michel Joseph.
Dès son retour d'Écosse, où la reine Elisabeth II l'a invité à former un gouvernement à la place de Boris Johnson, Liz Truss a nommé les premiers poids lourds de son gouvernement. Pour la première fois, aucun des 4 principaux postes de l'exécutif, Premier ministre, ministre de Finances, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, n'est occupé par un homme blanc. Kwasi Kwarteng, d'origine ghanéenne, né en 1975, devient le premier chancelier noir de l'échiquier. Il aura la tâche la plus difficile en cette période de grave crise économique. James Spencer Cleverly, né en 1969, dont la mère vient de Sierra Leone, est aussi le premier noir ministre des Affaires étrangères qui offrira un visage diplomatique différent à un pays qui a autrefois dominer un quart de la planète. Suella Braverman, dont les racines sont en Inde, devient ministre de l'Intérieur. Elle sera chargée de superviser le maintien de l'ordre et l'immigration. Le premier conseil des ministres se réunit ce matin avant que la nouvelle dirigeante aille affronter pour la première fois Keir Starmer, la chef de l'opposition travailliste au Parlement.
Les États-Unis annoncent le test d'un missile balistique intercontinental pour ce mercredi. Cette annonce, qualifiée de très inhabituelle, est destinée à éviter toute aggravation des tensions avec la Russie. Le point avec Abdulrahman Dia.
L'annonce de ce test a été faite par le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Il précise qu'il s'agit d'un test de routine qui était prévu depuis longtemps et qui, comme les tests précédents, validera et vérifiera l'efficacité et le degré de préparation du système. Les États-Unis ont notifié le gouvernement russe à l'avance, a souligné le porte-parole. Fait rare, les États-Unis n'annoncent généralement pas à l'avance leurs tests de missiles ICBM. Le dernier test de Minuteman III, un missile capable de transporter une bombe nucléaire, avait été reporté à 2 reprises. Il intervient dans un contexte de tension avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou. De son côté, le président russe Vladimir Poutine tente de renforcer son alliance avec la Chine et des pays asiatiques. Il a supervisé mardi des exercices militaires auxquels participent la Chine et plusieurs pays alliés, dont l'Inde. Selon Moscou, plus de 50 000 militaires y prennent part.
La Russie a demandé des clarifications à l'Agence internationale de l'énergie atomique sur son rapport publié mardi sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée depuis mars par les forces russes en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a dit ce mercredi que le document contient un certain nombre de points d'interrogation. Jugeant la situation actuelle intenable, l'agence a réclamé la mise en place d'une zone de sécurité pour empêcher un accident nucléaire. Ici aux États-Unis, au moins 2 personnes ont perdu la vie mardi en Californie et des milliers d'autres ont été priées d'évacuer leur logement à cause d'un nouvel incendie d'ampleur dans la région de Los Angeles. Actuellement soumise à une brutale vague de chaleur, les autorités craignent de devoir en arriver à des coupures de courant, le réseau électrique ployant sous la demande. Certaines régions du Nevada et de l'Arizona ont fait face de leur côté à une nouvelle journée de température extrême. Un document décrivant les forces militaires d'un pays étranger dont ses capacités nucléaires a été découvert parmi les documents saisis par le FBI dans la résidence de l'ancien président américain Donald Trump début août. C'est ce qu'a affirmé mardi, sans détail supplémentaire, le Washington Post, citant des sources proches du dossier. M. Trump avait qualifié de canular de précédentes révélations du Post à ce sujet. La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
Le Mali a demandé mardi à Lomé la levée des sanctions imposées par les organisations africaines après 2 coups d'État militaires, en arguant des progrès accomplis par la junte vers un retour à l'ordre constitutionnel. L'une des priorités du gouvernement de transition reste l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles dans un délai de 24 mois à compter de mars 2022, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères devant un groupe créé par l'Union africaine sur le Mali en 2020. Le président du Conseil européen Charles Michel a vanté lundi le partenariat entre l'Europe et l'Algérie. « Nous voyons en l'Algérie un partenaire fiable, loyal, engagé sur le terrain de cette coopération en matière énergétique », a-t-il déclaré après un entretien à Alger avec le président algérien. L'Europe fait face à un manque de gaz qui se profile cet hiver après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par la compagnie russe Gazprom. L'Algérie fournit environ 11% du gaz consommé en Europe. Les transferts de fonds des Tunisiens de l'étranger vers leur pays ont atteint 1,87 milliard de dollars durant les 8 premiers mois de l'année 2022, une hausse de 16,5% par rapport à la même période de 2021, selon des données publiées lundi par la Banque centrale de Tunisie. Ces fonds constituent désormais la deuxième source de devises du pays.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite ce soir des matchs de la première journée de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, l'Inter Milan devra montrer une solidité défensive sur le terrain contre le Bayern Munich du Sénégalais Sadio Mané. Le FC Barcelone de l'Ivoirien Franck Kessié fait face au Victoria Plzen au Camp Nou. Tottenham joue l'Olympique de Marseille. L'Atlético Madrid reçoit le FC Porto ce mercredi.
Ces matchs de la première journée se poursuivront peut-être sans Victor Osimhen.
L'attaquant nigérian de Naples est incertain pour le choc contre Liverpool de Mohamed Salah et Naby Keita, selon son entraîneur Luciano Spalletti, qui précise que sa titularisation sera décidée quelques heures avant le match. Victor Osimhen ne s'est pas entraîné lundi en raison d'une fatigue musculaire ressentie après la victoire contre la Lazio. Samedi à Rome, 2-1, soutient Luciano Spalletti. Après s'être entraîné en solo mardi, Osimhen doit rejoindre le groupe ce mercredi matin.
Quelques résultats des matchs d'hier, toujours en Ligue des Champions.
Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne européenne en dominant la Juventus au Turin 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Doublé également pour le prodige norvégien Erling Haaland qui a lancé Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez vers une victoire facile 4-0 sur le terrain du Séville FC. À Lisbonne, Benfica a battu Maccabi Haïfa 2-0. Défaite surprise 1-0 de Chelsea, des Sénégalais Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy et du Marocain Hakim Ziyech, ainsi que du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, battu par le Dynamo Zagreb. 4-1 pour le Shakhtar Donetsk face au RB Leipzig, dont un but du Burkinabé Franck Alassina Traoré. Le Real Madrid, tenant du titre, s'est imposé face au Celtic Glasgow 3-0, mais a perdu son attaquant star Karim Benzema, sorti sur blessure après 30 minutes de jeu.
Tennis, les finales WTA au Texas cette année.
Ces finales des Masters de fin d'année se joueront à Fort Worth au Texas cette année, du 31 octobre au 7 novembre, avant un éventuel retour en Chine en 2023. C'est ce qu'a annoncé l'instance qui gère le circuit professionnel féminin. Ce prestigieux tournoi de fin d'année regroupe les 8 meilleures joueuses de simple et les 8 meilleures équipes de double de la saison.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye hausse le ton contre certains membres corrompus du CNDD-FDD qui se croient intouchables. Il fustige le comportement d'un groupe de personnes qui veulent renverser les institutions démocratiques élues comme en 2015 et prévient que c'est un acte qui n'arrivera jamais sous son mandat. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza, a tendu son micro à certains habitants de la capitale économique.
Depuis plusieurs mois, le président Évariste Ndayishimiye s'insurge contre certaines autorités, cadres militaires et hauts cadres civils du pays, qui se croient que tout est permis. Devant les magistrats, le dernier jeudi du mois d'août, dans la capitale politique Gitega, il a pointé du doigt, sans les nommer, certains membres du parti présidentiel qui ont l'objectif de freiner le développement du pays. Ces personnes, qui se croient toutes puissantes, alors que c'est le pays qui les a faites, auraient même l'intention de l'éjecter du pouvoir selon toujours le numéro un Burundais. Cet habitant de Bujumbura qui a requis l'anonymat attend que ces personnes soient un jour traduites devant les juridictions compétentes.
Je pense que c'est déjà une bonne chose. Il sait déjà ce qui veut bloquer le développement, ce qui veut bloquer ses initiatives. Le reste à savoir, c'est comment est-ce qu'il va procéder pour empêcher ces gens. Il est difficile de lutter contre les gens qui sont proches de toi par rapport à ceux qui ne sont pas proches. Nous attendons maintenant qu'est-ce qu'il va entreprendre pour bloquer.
Le chef de l'État burundais a indiqué que des dignitaires corrompus entravent au quotidien le développement du pays. Terence Manirambona, porte-parole du parti d'opposition CNL, Congrès national pour la liberté, affirme que le président burundais fait face à deux courants contradictoires au sein du parti au pouvoir.
Des fois, le parti qui se confond au pays, ça nous inquiète. Deuxième chose, de bonnes intentions, mais qui ne se traduisent pas en actes concrets. On dirait qu'il y a deux courants au sein du parti au pouvoir, un courant que l'on peut qualifier de réformiste, un autre réfractaire. Le plus dangereux, c'est que si le courant réfractaire devient plus fort, c'est un problème pour le pays. Mais attendons voir.
Simon Barumwete, professeur d'université et politologue, soutient le discours du président burundais.
Il est en train d'instaurer une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de faire. Cette fois-ci qui est la bonne pour le développement du pays. Mais il y a des résistances parce qu'il est en train de s'éloigner du rôle auquel on s'attendait à ce qu'il fasse. Il est en train de dénaturer le pouvoir politique en Afrique. Et les gens, donc, ne le suivaient pas. Et ils se sentaient seuls. Et pour cela, les gens ne sont pas d'accord.
Plus de 30 magistrats ont été dernièrement révoqués, cet administrateur communal destitué. Et comme le dit si bien le président burundais, il n'y a pas de naissance d'enfant sans contraction. Authentique, comme disent les Anglais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les experts dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation indiquent qu'il est urgent pour les Africains d'adopter des stratégies efficaces pour accroître la production agricole sur le continent. Constatation faite mardi à Kigali à l'ouverture de la conférence du Forum sur la révolution verte en Afrique. De la capitale rwandaise, Jean Damascène Manishimwe.
Se remettre des conséquences de la pandémie de Covid-19, faire face aux défis du changement climatique et nourrir suffisamment tout le continent africain, Tels sont certains points qui préoccupent l'édition 2022 du Forum sur la Révolution verte en Afrique, au moment où les besoins alimentaires s'accentuent de plus en plus sur le continent de la vie des experts. Le premier ministre rwandais Edouard Ngirente invite les pays africains à opter pour le changement dans le secteur agricole afin de doter le continent des systèmes alimentaires résilients. Dans son voyage pour transformer l'agriculture africaine, les pays africains doivent s'engager pleinement à conduire une transformation agricole globale en tant que fondement essentiel de notre croissance économique. Profitons de ce moment, remettons-nous sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en vue de la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable. Ce point est partagé par l'ancien Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, qui précise qu'il est plus qu'urgent de mettre en pratique tous les programmes que les pays africains se sont fixés. La transformation des systèmes alimentaires est la clé de notre transformation économique. Et nous avons besoin de le faire maintenant, sinon l'Afrique sera le seul continent affamé en 2030. Pour Patrice Amquin, expert agricole du Centre international engagé dans la fertilité du sol sur le continent africain, les dirigeants africains doivent tout faire pour nourrir de façon résiliente et à long terme la population en tenant compte des difficultés du moment qui peuvent perdurer.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a pratiquement 70 millions de personnes qui sont tombées dans la crise alimentaire, qui sont susceptibles d'en pâtir encore pendant une année. Nous savons tous aujourd'hui que des crises comme ça sont appelées à se répéter et il faut construire les systèmes avec les gouvernements, avec le secteur privé, avec les bailleurs de fonds pour pouvoir créer les conditions pour pouvoir avoir des crises que nous arrivons à gérer nous-mêmes sans attendre forcément l'aide extérieure. Le forum est un très bon espace pour pouvoir y arriver de manière à créer également les conditions d'une résilience à long terme. On ne peut pas travailler que dans l'urgence pour résoudre les crises. Il faut qu'on se prépare à gérer des crises de plus en plus fréquentes à cause du changement climatique, à cause des crises internationales qui peuvent nous affecter. Mais il faut qu'on se crée nous-mêmes les conditions de pouvoir les résoudre.
Plus de 1500 participants au forum sur la révolution verte en Afrique sont unanimes à dire que face aux crises persistantes que traverse le monde, le continent africain doit créer des conditions de la résilience pour nourrir sa population qui va doubler dans les 20 prochaines années.
Toujours avec Jean Damascène, au Rwanda, les femmes engagées dans des domaines d'activité autrefois réservés uniquement aux hommes se félicitent de l'évolution des mentalités qui fait qu'il n'y a plus de métier tabou pour les femmes de leur pays.
Des bruits d'une foreuse minière utilisée par Mme Jeannette Moutessi. Nous sommes avec elle dans une mine où est extrait le coltan à une quinzaine de kilomètres au sud de la capitale rwandaise Kigali. Cette mère de deux enfants se sert de cet engin pour percer des roches. À la recherche du coltan, c'est son labeur quotidien de 7h du matin à 16h. Dans le temps, de travaux durs étaient uniquement réservés aux hommes. Une conception qui a évolué pour le moment, comme l'indique Madame Moutessi.
Je dirais à ceux qui hésitent encore que les femmes sont aussi capables. Nous avons plusieurs obligations comme femmes, mais nous devons y ajouter notre part. Il ne faut pas se sous-estimer, mais plutôt avoir confiance en soi. Si on le fait, on vient à bout de n'importe quel travail.
Cette mine dans laquelle travaille Moutessi est détenue par une femme entrepreneur, Madame Vestine Kamugwera. Comment a-t-elle pu arriver à ce stade?
Nos autorités ont sensibilisé le public à créer de l'emploi pour gagner la vie. C'est ainsi que j'ai pensé à l'extraction minière. Je me disais que ce domaine rapporte beaucoup. J'avais la volonté et j'ai relevé ma détermination. Comme ça, je me suis lancée dans l'extraction minière.
Les femmes sont nombreuses dans ce domaine d'extraction minière et dans d'autres métiers autrefois considérés comme durs. Mokanyirigira et 14 autres femmes travaillent quotidiennement avec une centaine d'hommes dans cette mine de Kamonyi. Ces femmes se sentent fières d'avoir intégré ce métier et en tirent les revenus qui leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille.
Oui,
Nous devons travailler pour notre développement. Aucune femme n'est complexée au travail pour le moment. Les mentalités ont évolué et nous trouvons ceux qui nous engagent. Il suffit d'avoir du savoir-faire et la force de le faire.
Clémence Munezero travaille, elle, comme technicienne dans la centrale électrique de Musanze, c'est au nord du Rwanda, un domaine que les femmes n'abordaient pas non plus dans l'OTAN. Les statistiques de l'École polytechnique du Rwanda montre que dans les 100 dernières années, les femmes constituaient 23% de l'effectif total de tous les étudiants, alors qu'elles sont de 26% pour l'année académique en cours. Pour briser les conceptions d'antan qui interdisaient certains travaux aux femmes, les autorités rwandaises mènent depuis des années des campagnes de sensibilisation qui font que les femmes jouissent de leurs droits au même titre que les hommes et deviennent désormais de plus en plus nombreuses dans des instances de prise de décision, comme au Parlement où les femmes constituent 61% de l'effectif total des parlementaires à la Chambre des députés. Jean Damasène Manichimwe à Kigali pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Kigali au Rwanda sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Royaume-Uni, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, est formellement devenue première ministre mardi après avoir été reçue par la reine Elisabeth II. La monarque lui a confié la tâche de former un gouvernement dans un Royaume-Uni en pleine crise économique et sociale. Liz Truss a promis lundi de gouverner comme une conservatrice, de mettre en place un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître l'économie et de battre les travaillistes lors des législatives prévues d'ici début 2025. Eric Manirakidza a joint en Écosse Assa Samake-Roman, journaliste indépendante à Édimbourg.
C'est la troisième femme à être première ministre, troisième femme en plus issue du rang du Parti conservateur. Il y a d'abord eu Margaret Thatcher, ensuite Theresa May et maintenant Liz Truss. Elle prend le pouvoir aujourd'hui et donc elle va avoir des chantiers très importants qui l'attendent à son bureau à 10 Downing Street. En premier lieu, la crise du coût de la vie qui est causée par l'augmentation assez fulgurante des prix de l'énergie, le gaz, l'électricité qui vont augmenter très très fortement à partir du mois d'octobre et à nouveau en début d'année prochaine. Donc les foyers, les entreprises sont très très inquiets. Là, c'est une augmentation de 80% qui va arriver. Et donc, tout le monde attend de savoir ce qu'elle, à 10 Downing Street, va faire pour aider les gens au Royaume-Uni.
Elle a promis à agir immédiatement.
Alors, justement, c'était une critique qu'on lui a adressée très souvent ces dernières semaines pendant les débats, en fait, qui ont eu lieu tout cet été pour choisir qui serait le successeur de Boris Johnson. On a dit que Liz Truss ne donnait pas beaucoup de détails quant à ce qu'elle voulait faire pour aider les gens dans cette crise du coût de la vie. Donc, aujourd'hui, on sait que là, dans les prochains jours, très probablement même cette semaine, elle va donner tout un paquet de politiques en fait pour soulager les ménages qui vont faire face à des factures extrêmement élevées cet automne et cet hiver. Il y a déjà des choses qui sont apparues dans la presse. On parle peut-être d'un gel des prix de l'énergie au niveau actuel qui est un peu en dessous de 2000 livres sterling par an, plafond en fait de l'énergie qui pourrait du coup ne pas bouger pour cet automne. Évidemment, cela coûterait assez cher à l'État, plusieurs dizaines de milliards de livres sterling. La question sera de savoir comment est-ce que ça sera payé. Pour le moment, elle a exclu de taxer les énergéticiens, donc des entreprises comme Rich Gas, Scottish Power, etc., etc. Ça, elle est complètement contre des nouvelles taxations en fait sur ces grosses entreprises. Mais elle a aussi dit qu'elle n'augmenterait pas les impôts. Donc tout le monde se demande comment est-ce que l'État va pouvoir financer un gel des prix d'énergie. Donc on attend les détails. Pour le moment, voilà, il y a des petites choses qui sortent à droite à gauche, mais rien de très très concret.
Comment l'opinion publique au Royaume-Uni a accueilli cette femme comme première ministre?
Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a eu une lune de miel, une période de grâce, on va dire, qui suit l'arrivée au pouvoir de tout premier ministre, parce que tout le monde est tellement angoissé par la crise du coût de la vie Et ça se voit d'ailleurs, il y a eu de nombreuses grèves, il y en a d'autres qui s'annoncent, les pompiers pourraient se mettre en grève. En Écosse, on a eu une grève des éboueurs, on a une grève dans les écoles et les crèches aussi. Enfin vraiment, les gens sont très mécontents en fait de la situation.
Assassa Maké Roman, journaliste indépendante à Édimbourg.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg avec vous. En RDC, le député de l'opposition, Martin Fayoulou, a affirmé que les députés congolais gagnaient en ayant les revenus des députés, des ministres et autres agents de l'État, y compris les salaires des présidents. Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur notre page Facebook ou sur notre numéro WhatsApp, +1 202 297 60 89. À votre avis, c'est du lundi au vendredi à 18h05 temps universel sur VOA.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée.